enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bonsoir à toutes et à tous. Prenez vos Bibles, on va l'ouvrir ensemble dans Jean 15. Pour ceux qui l'ont, bien sûr. Jean 15, les versets 12 à 17. Il est marqué là, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que je vous ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Ce qui a retenu mon attention ce matin quand je préparais le message, c'était que Jésus nous appelle ses amis ou nous invite à devenir ses amis. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas seulement voulu que nous soyons ses serviteurs ou ses servantes, mais aussi que nous devenions ses amis. Et je pense là à une image de la cour d'un roi. Il y a les serviteurs qui vont et viennent, qui s'affairent, qui font un tas de choses pour lui. Et puis il y a le cercle restreint, les confidents, les ministres, les proches, les éminences grises, ceux qui sont dans les couloirs, qui sont dans les décisions, dans les confidences. Eh bien, Jésus veut faire de chacune de nos vies, de chacun de vous et de moi, non seulement un serviteur ou une servante, mais aussi un ami. De son côté, il l'a déjà prouvé en payant de sa vie pour nous sauver. Mais de notre côté, il y a tout un cheminement à faire pour passer de serviteur à ami. Comment devenir son ami? Comment le développer et le rester? Et comment le faire ou le rester quand on vit des choses difficiles? Quand on passe des tempêtes, quand on passe des deuils, quand on passe des temps d'infirmité ou d'hôpital, ou d'accident, ou que sais-je, ou d'échec tout simplement? Alors, j'ai pas le temps ce soir de tout développer, mais je voudrais partir sur trois directions. Je voudrais parler en particulier à ceux ce soir à qui Dieu a parlé à la fin du moment de louange. À ceux qui un temps ont cheminé avec Jésus, qui ont été zélés pour lui, qui faisaient même partie du cercle des confidents, mais qui, à cause du péché, à cause des choses qu'on a laissées tacher sa robe blanche, ont fait marche arrière. Ont pris de la distance, sont redevenus de simples serviteurs, ou pire que ça, des simples participants ou assistants. Ce soir, je crois qu'il y a un rendez-vous pour vous. Dieu vous appelle à redevenir ses amis. Alors, comment le devenir? Avant d'être ami, faut-il qu'il y ait un premier contact? Avant d'être un contact permanent. Moi, j'aime les évangiles. Vous savez pourquoi? Parce que l'évangile est réellement une suite d'anecdotes de rencontres. Si je devais sous-titrer l'évangile par un seul mot, je dirais « rencontre » au pluriel. À toutes les pages, nous voyons Jésus rencontrer des hommes et des femmes de son époque. Des gens intelligents, des gens moins intelligents, des gens fortunés, des gens beaucoup moins fortunés. En tout cas, il va à la rencontre et des gens viennent à sa rencontre. Et pour tous ceux qui sont allés à sa rencontre, de manière sincère, quelque chose s'est passé au fond d'eux. Il y a eu une première rencontre. Le premier signe de l'évangile, c'est que c'est pas les hommes qui vont forcément chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est à la recherche de l'homme. J'aime l'histoire de Zachée dans Luc 19. C'est Jésus qui va aller à lui. Et cet homme, dont personne n'aurait cru qu'il s'inquiétait de choses, je dirais, au-delà de l'argent, et bien voilà que Jésus connaissait la soif de cet homme-là et il va à sa rencontre, à Jéricho. Et quand il le croise, son sycomore, il lui dit, Zachée, descends de ton arbre, il faut que je fasse ma demeure chez toi. Zachée le reçoit avec un cœur grand ouvert. Et quand il rentre chez lui, Jésus transforme son échelle des valeurs. Et quand il ressort, cet homme est transformé. Et finalement, face à tous ceux qui ont critiqué la visite de Jésus chez Zachée, Jésus va dire, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Et c'est mon histoire, c'est la vôtre, qu'un jour Jésus est venu me chercher. La seconde caractéristique, c'est que lorsqu'une fois qu'on a rencontré Jésus, quelque part se développe une amitié, un contact permanent. Moi j'aime l'histoire d'Abraham. Voilà qu'un jour, Dieu se révèle à lui. Et ce que je retrouve chez Abraham, c'est continuellement cette discussion de cœur à cœur entre lui et Dieu, entre Dieu et lui. Et dans Genèse 18, à un moment donné même, Dieu va dire, il va se dire avec ses deux anges, mais peut-on empêcher Abraham de savoir ce qu'on va faire? Il va le mettre dans les confidences. Comprenez? Serviteur, ami, il y a une différence. Bien-aimé, ce que Dieu cherche, c'est que nous entrions dans un contact permanent avec lui au quotidien. Un contact permanent avec lui au quotidien. Dieu n'est pas intéressé que par des visites hebdomadaires du dimanche matin ou du mardi soir à 20h. Il n'est même pas intéressé par des rendez-vous coincés dans un agenda surcompressé déjà, où on lui accorde 5 minutes rapidement. Mais Dieu est intéressé par un contact permanent avec lui. Moi, j'aime rouler en voiture. Pour une bonne et simple raison que bien souvent, ma voiture est devenue une chapelle ambulante. Et je lui parle. De tout. De ma vie, ma femme, de mon travail, de la visite à faire, de ce que je viens de vivre il y a un instant. Et je viens et je décompresse et je lui remets des fardeaux. Et je lui soumets des projets. Des fois, je crie, au secours, Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant, dans les minutes qui viennent, tu vois la visite que je vais faire. Seigneur, viens à mon secours. Et vous savez quoi? Ça marche. Ça marche. Et je vous encourage à le faire aussi. Je vous appelle mes amis, a dit Jésus. Je vous appelle mes amis. Allô, vous êtes là ce soir? C'est le but et le projet de Dieu pour votre vie aussi. Non pas juste un simple serviteur, une servante, mais un ami. Paul disait, priez sans cesse. Ah, comment je vais faire ça? Aller au cloître, au monastère? Je ne pense pas. Je n'empêche personne d'aller faire une retraite. Ah, pas de ça, mais genre Dieu voulait que tout simplement nous comprenions qu'il est intéressé par un contact permanent avec lui. Dans tout ce que nous faisons, c'est d'ailleurs un frère qui était chrétien à son époque, qui était moine aussi, un moine français, qui disait, la clé vers l'amitié avec Dieu n'est pas de changer ce que vous faites, mais de changer votre attitude par rapport à ce que vous faites. Ce que vous faites d'habitude pour vous, vous commencez à le faire pour Dieu, que ce soit manger, boire, dormir, vous relaxer ou sortir les poubelles. On peut tout faire pour Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Longtemps, je n'ai que servir Dieu, c'était être à plein temps dans le ministère. Jusqu'au jour où j'avais compris qu'au fond de ma salle de classe à l'école, je servais Dieu. Et je pouvais être une lumière pour les 25 ou 30 bambins que j'avais en face de moi et la famille respective. Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu. Restez en contact permanent avec lui. Je vous appelle mes amis. Dieu parmi les hommes. Moi j'aime ce jardin d'Éden. Voyez-vous, en Éden, il n'y avait pas d'église. Pas de cérémoniel, pas de louange, pas de musicien, mais Dieu était là, dans le jardin, à être en communion avec les humains, dans ce qu'il faisait. Il donnait des noms aux animaux, éléphants, girafes, isha, etc. Et puis Abraham aussi, pas d'église non plus, pas d'église, rien de tout cela. Mais il connaissait Dieu et Dieu le connaissait et à la fin de sa vie, il a été appelé l'ami de Dieu dont parlera Jacques dans Jacques 2, 23. Amen. Je vous appelle mes amis. Question ce soir, où en êtes-vous avec Dieu? Êtes-vous son ami? Est-il votre ami? Ou est-ce une simple accointance? Une connaissance? Voltaire disait, quand on lui parlait de Dieu, s'il le connaissait, Voltaire disait, on se parle de temps en temps, mais de loin. Vous en êtes où ce soir avec Dieu? Il y a des moments où Dieu fixe des rendez-vous à nos vies. Et ce soir, je crois que c'est un de ces moments. Deuxième point pour créer ou pour développer une amitié avec Dieu, c'est de le connaître. Et impossible de développer une connaissance de Dieu sans connaître sa parole. C'est dans 1 Samuel 3:21 qu'il est dit « L'Éternel se révélait à Samuel, à la ville de Silo, par la parole de l'Éternel. » Si vous voulez connaître Dieu, faut-il connaître sa parole, mettre son nez dedans et méditer sa parole. Remarquez, je n'ai pas dit qu'il faut lire du matin au soir la Bible. Mais j'ai dit qu'il faut la méditer. Je vous recommande de la méditer, de la réfléchir, de la ruminer. Le propre d'un ruminant, c'est qu'une fois qu'il a mangé, il va s'allonger et à un moment donné, ça remonte de son estomac et la vache, elle repasse la boule d'herbe entre ses dents, elle rumine. Nous savons très bien en tant qu'être humain ruminer, mais dans le mauvais sens du terme, n'est-ce pas? Quand on se fait du mouron, quand ça rumine et que ça broie des idées noires, vous connaissez cela? Quand ça vous fait de l'insomnie et de l'angoisse, et que finalement, des fois, on est tenté de prendre du Lexomil. D'autres, c'est un verre de cognac. Parfois, il y en a même un trop. Si vous savez vous faire du souci, vous savez méditer. Parce qu'en fait, c'est absolument la même activité, si ce n'est que l'objet de votre méditation n'est plus un souci, mais un verset des Écritures. Amen. Donc si vous savez vous faire du mouron, vous savez méditer. Et plus vous êtes quelqu'un qui fait du mouron, qui prend des idées noires, plus vous êtes capable de méditer la parole de Dieu. David disait au psaume 77, verset, je ne sais plus lequel, 97, « Ah, combien j'aime ta loi, elle occupe mes pensées tout le jour. » Question ce soir, qu'est-ce qui occupe vos pensées tout le jour? Le stress du boulot? Le mari qui vous énerve? La gamine qui ne mange pas très bien? Enfin, l'estomac qui va mal? Que sais-je? David disait, « Ah, combien j'aime ta loi, elle occupe ma pensée ou mes pensées tout le jour. » Dans la Bible, eh bien, on trouve des hommes et des femmes qui ont compris cela. Et que plus ils méditaient la parole de Dieu, plus eh bien, ils avaient la révélation des secrets de Dieu. Psaume 25, verset 14 dit, « Le Seigneur confie son secret à ses fidèles. Il les instruit des devoirs de l'Alliance. » Plus loin, il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne leur instruction. Alors, commencer une relation amicale avec le Seigneur, c'est une première rencontre. Et puis, c'est développer le contact permanent. Et finalement, c'est apprendre à le connaître. Et je vous recommande de choisir le matin une bonne portion, là, comme la vache, vous mangez un bon morceau de terrain de la parole de Dieu. Vous laissez descendre ça au fond de l'estomac et en cours de journée, vous remontez un ou deux versets et vous le ruminez. Et quand tout va mal, vous allez dire, voilà ce que je veux repasser dans ma pensée quand tout va mal. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Et quand l'ennemi vient comme un fleuve, vous pouvez lui dire, l'Esprit de l'Éternel le fait fuir par 7 chemins différents. Amen. Allô, vous êtes toujours là avec moi ce soir? Troisième point, et ce sera le dernier, avant la conclusion. Vous allez me dire, frère, ça va très bien tout ça. Mais vous savez, frère, la vie n'est pas toujours aussi rose. Hein. Des fois, on passe des périodes plutôt noires et difficiles. Et je vous rejoins dans Éphésiens 6, 13, il est dit, il est parlé du mauvais jour, ou du jour mauvais, même pour le chrétien. Après avoir tout surmonté, afin de pouvoir résister et tenir ferme aux jours mauvais. Effectivement, il existe aussi des jours mauvais pour le croyant. Mais voyez-vous, ce que je remarque dans la parole de Dieu, c'est que des hommes comme Job, comme David, comme Jérémie, qui ont connu des mauvais jours, ces hommes de Dieu, eh bien, ont toujours raconté la mauvaise fortune à Dieu. Autrement dit, ils ont été honnêtes avec Dieu. Et je voudrais ce soir que vous puissiez, que nous puissions être, avant la prière là, un moment donné, honnêtes avec Dieu. Si vous voulez devenir un ami avec Dieu, il me faut devenir honnête avec lui. Honnête avec lui dans ce que je vis, dans ce que je sens, dans ce que je pense, dans ce que je traverse, dans ce que je doute, dans ce que je pêche, et être honnête avec Dieu. Dieu n'a jamais voulu, n'a jamais exigé qu'on soit parfait, mais il exige de nous que nous soyons honnêtes avec lui. Dans la parole de Dieu, les amis de Dieu étaient des hommes et des femmes honnêtes face à leurs émotions, y compris leurs ressentiments, leur amertume, leur incompréhension, leur colère, leur culpabilité et leurs doutes. Si vous lisez Job 3, chapitre 3, verset 1 et les suivants, vous allez voir comme Job, après avoir été frappé par l'ennemi au niveau de sa famille, il perd 10 enfants en un jour, son cheptel, l'économie, son patrimoine est parti en fumée. Et finalement, il perd aussi sa santé physique. Et sa pauvre femme, qui était à un moment donné découragée, va lui dire, mais t'as qu'à maudire Dieu et mourir. Et à un moment donné, Job va résister. Il va être ferme. Dieu m'a donné, Dieu m'a repris, que Dieu soit glorifié. N'est-ce pas? Super. Amen. Mais lisez voir Job 3, s'il vous plaît. Vous allez voir que Job s'en prend à Dieu. Ah, mais si c'est comme ça avec toi, mais qu'est-ce que tu me fais là? C'est pas possible. Et vraiment, il explose devant Dieu. Il lui dit les quatre vérités, entre guillemets. Je pense aussi à Marthe et Marie. On lit souvent cela de manière aseptisée. C'est un texte, n'est-ce pas, noir sur blanc. Mais j'aurais voulu voir ça en caméscope, en vidéo, en couleur, en quadrichromie, avec les odeurs et les réactions sous le terrain. Quand à un moment donné, Jésus retarde volontairement son départ vers Béthanie et que, à cause de cela, le brave Lazare, son ami, est décédé et enterré. Il arrive, et finalement quand il arrive, arrive aussi la sœur de Lazare, et elle lui dit, si t'avais été là, hein, c'est pas mort, frangin. Bon, c'est dit autrement, si tu eusses été ici, c'est très très édulcoré. Mais j'aurais voulu avoir une caméra cachée sous la main et filmer la scène. Si t'avais été là, Seigneur, si t'avais été là, autrement dit, t'étais où? Pourquoi tu es tardé? Pourquoi t'as attendu tellement longtemps? Je comprends plus. T'es mon ami, t'es notre ami. On t'a accueilli chez nous, à la maison. Mais qu'est-ce que t'as fichu? Alors, ça n'arrive qu'à l'époque, n'est-ce pas? Plus de nos jours, chez nous, dans ce lieu. Allô? D'accord. Bien-aimé, je crois que c'est important que nous puissions, en tant qu'amis de Dieu aussi, exprimer toutes ces incompréhensions. Récemment, nous avons lu ensemble Lamentations 3, les versets 1 à 23, où vraiment Jérémie va se lamenter devant Dieu, d'où le mot les Jérémiades. À un moment donné, il va être tellement dans la difficulté, il va, à cause du nom de Dieu, à cause de sa fidélité à prêcher la parole de Dieu, toujours une parole difficile, n'est-ce pas, à écouter, parce qu'il annonçait des malheurs, il annonçait des choses difficiles, eh bien, tout le monde l'a haï. Finalement, on l'a mis au fond d'une citerne, c'est-à-dire une crevasse. Il y avait de l'eau d'habitude, l'eau était desséchée à moitié, et au fond, il y avait ça de boue. Et on l'a mis dedans. Lui, le prophète, l'homme de Dieu qui obéissait en plus. Et voilà ce qu'il va dire à un moment donné. Je ne sais pas si vous voulez le lire avec moi, mais vous pouvez le faire. Dans Lamentations chapitre 3, je vous lis juste quelques versets, des morceaux de choix. Je trouve ça excellent. Il va dire au verset 1, « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. » Je vous le dis en français courant, « Je suis l'homme qui a connu la misère sous les coups furieux du Seigneur. » Seigneur, c'est ta faute si je suis là. Et puis il continue en disant, « Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. » Et puis il insiste, il continue en disant, « J'ai beau crier, verset 8, et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. J'ai beau prier, louer le Seigneur. Ça marche ça, mais pas chez moi. » Eh oui, toujours pareil. C'est moi le calimero de l'église. Verset 10. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. C'est dingue ce qu'il dit là. Verset 12. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. C'est moi la cible, toujours moi. Boing, boing. Et puis il rajoute derrière. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Et maintenant il atteint le fond de la dépression en disant, il m'a brisé mes dents, il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, verset 18, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. En français courant c'est, je n'ai plus d'avenir, je n'attends plus rien du Seigneur. Ah, quel homme de Dieu plein de foi. Ah, moi, c'est incroyable comme il est encourageant, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, ce que j'aime, c'est que cet homme est justement un homme de Dieu. Et il a pu exprimer toute sa douleur, toute son amertume, tout son ressentiment. Et ça a été son cheminement vers la guérison. Le fait de pouvoir dire au Seigneur, « Seigneur, ça ne va pas, j'en ai marre, j'en ai plein les bottes, j'en ai plein partout, j'en ai assez. Seigneur, au secours !» Et finalement, après avoir dit tout ça, à un moment donné, il débouche hors du tunnel et il va dire la chose suivante. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Amen! Autrement dit, s'il voulait être l'ami de Dieu, il lui fallait être honnête face à Dieu, honnête avec Dieu. Je voulais le dire ce soir, si nous voulons devenir les amis de Dieu, et Dieu veut faire de nous ses amis, pas juste ses serviteurs et ses servantes, il souhaite que nous devenions honnêtes avec lui. David dira, tant que je me suis tu, je gémissais. C'est incroyable le nombre de croyants qui au fil du temps se taisent et ravalent et se cachent et enfouissent le problème au lieu de les sortir et de le dire à Dieu quand ça ne va pas. Et de dire, ça ne va pas. Et puis, nombre de croyants aussi, peut-être, ce soir, c'est peut-être un moment de Dieu que Dieu voulait pour vous ce soir, à vous qui avez sali votre vêtement dans la marche. Tant que vous vous tairez, vous gémirez. Tant que vous cacherez votre péché, vous l'enfuirez. Que vous présenterez une belle façade, j'aimerais vous dire, vous ressortirez d'ici comme vous êtes venu, gémissant, dépressif, affaibli intérieurement. David dira, tant que je me suis tu, je gémissais. Il disait, tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Autrement dit, j'avais plus de force, j'étais épuisé, burn out, déprimé. Il va continuer en disant, mais je t'ai avoué ma faute. Autrement dit, j'ai ouvert la bouche, j'ai reconnu ce que j'ai fait. J'ai reconnu ce que j'ai fait, je ne t'ai pas caché mes torts. Et je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Question, pourquoi devrions-nous devenir honnêtes avec Dieu? Dieu connaît tout de nous. C'est vrai. Pourquoi donc? Il sait tout de nous. Il sait le moment où on se lève, on s'assied. C'est tout de nous, mais Dieu veut que nous ayons le courage de le dire. Dieu est lumière. Ce soir, apporte cela à la lumière de Dieu. Et tu verras qu'à ce moment-là, que ce soit tes doutes, ou ta culpabilité, ou que ce soit ta colère, ton incompréhension face au plan de Dieu, parce que tu n'as pas compris que tout ce que Dieu te fait arriver, c'est pour ton bien, pour te faire progresser. Mais j'aimerais te dire, en le disant à Dieu, tu atteins un nouveau niveau d'intimité avec Dieu. C'est pourquoi Dieu veut t'amener à être honnête et transparent avec lui. Quand Jérémie avait fini de sortir toute son amertume, toute sa gale qui infectait son âme, il pouvait enfin atteindre un nouveau palier avec Dieu et dire, mais Ta bonté se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Mon espérance est en toi. Quand David dira au psaume 42, je soupire après Dieu comme une biche soupire après des courants d'eau, il parle de son âme qui a soif de Dieu. Qui a soif de Dieu. Il voulait voir Dieu agir dans sa vie et il ne voyait rien. Il était dans un moment de dépression, un moment de déprime. Et il va dire, ô mon âme, pourquoi t'as-tu au-dedans de toi-même ? Espère en l'Éternel et je le louerai encore, dira-t-il. Et je le louerai encore. Quand David avait confessé sa faute, quand il avait enfin ouvert la bouche, il avait enfin compris qu'en ouvrant sa bouche, en confessant, en disant ces choses à Dieu lui-même, il allait atteindre un nouveau niveau relationnel avec Dieu. Et il dirait au verset 1, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas ses iniquités. » Amen. Heureux l'homme. Et David a fini comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Abraham a fini comme étant l'ami de Dieu lui-même. Et Jérémie a été un bien-aimé de Dieu. Et Jésus lui-même a connu des heures sombres où il a dit à Dieu son incompréhension. Souvenons-nous de Jésus à la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? S'il y en avait un qui savait pourquoi il passait, où il passait, c'était bien lui. Mais lui-même, dans son humanité, va devenir comme l'un de nous, qui dans la souffrance a des moments d'incompréhension. Pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Judas? Pourquoi Pierre? Pourquoi toute l'équipe est partie? Et pourquoi toi-même tu m'as lâché? Pourtant Dieu était là, avec lui, au moment de la croix. Mais c'est de lui, de Jésus, qu'il dira, voici mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je conclus. Je vous appelle mes amis, dit Jésus. Je vous appelle mes amis. Pas juste mes serviteurs, mes servantes. Celles qui font les basses tâches, les viles tâches. Mais non, vous allez devenir mes amis. Ceux à qui je peux confier mes secrets. Ceux à qui je peux parler de cœur à cœur. Ceux qui sont mes confidents, mes confidentes. Voilà ce que Dieu veut faire de vous et de moi. Et pour cela, eh bien, il faut déjà un premier contact, un départ. Et puis un deuxième contact, et un troisième, un contact permanent. Priez sans cesse, parler à Dieu sans cesse, depuis le tout. Et je vous assure, la voiture est un excellent lieu de prière. J'y prie régulièrement. Ça me fait du bien la voiture. Je suis tout seul et je prie. Je coupe la radio et je prie. Des fois, je le remets pour contrôler un peu ce qu'ils font à la radio, mais... Deuxième point, méditer la parole. Le matin, faucher un chant de la parole de Dieu. Manger un gros morceau de chant de la vérité. Et puis en journée, remonter un ou deux versets et ruminez-le. Faites-vous du mouron sur les versets. Broyez-les, écrasez-les. Tirez-en la substance profonde. Et finalement, j'aimerais vous dire, soyez honnête avec Dieu. Soyez honnête avec Dieu. Quand ça va bien, adorez-le, chantez-le de tout votre cœur. Et quand ça va mal, comme chez Jérémie, dites-le lui aussi. Quand vous déprimez, comme David, dites-le lui aussi. Mais ne perdez jamais l'espérance. Parce que le Dieu que nous connaissons est le Dieu de toute espérance. Amen. Il y a toujours quelque part une flamme qui brûle dans la nuit. Et elle s'appelle Jésus. Quelque part, même quand le lumignon ne fait que fumer, Jésus ne l'écrase pas, il la rallume. Il y a toujours de l'espérance. Toujours l'espérance dans le Dieu que nous servons. Amen. Enfin, je me termine en disant la chose suivante. Lorsque vous êtes dans la culpabilité, ou dans le doute, ou dans le ressentiment, ou dans l'amertume, j'aimerais vous dire, dites-le à Dieu. Moi, j'aime Jean-Baptiste. C'est vraiment un de mes héros favoris de la Bible. Voilà un homme qui a une colonne vertébrale solide. À un moment donné, quand il va prêcher l'évangile, il va aller dans le désert, il prêche à des gens qui ont le cœur sec, il y va, et il y a des conversions, il y a des baptêmes et tout. Et quand Jésus arrive sur le terrain, il cède la place. Il sait quel était son champ d'action, et maintenant il cède la place à celui à qui il a ouvert la voie. Et il va même dire à ses disciples, allez-y, suivez-le. Et voilà que maintenant qu'il est au fond de la prison, il se met à douter. Il se met à douter. Il m'a douté. Et il va dire à un disciple, écoute, tu pourras aller demander Jésus si c'est lui qu'on devait attendre. Luc 7, verset 20. Et Jésus va lui dire à ce disciple-là, retourne chez Jean et dis-lui, les aveugles le voient, les boiteux marchent, les paralytiques sont guéris, le royaume de Dieu est annoncé. Mais pas un seul mot de reproche. Aucun reproche. Il l'encourage en l'informant de l'efficacité de la prédication de la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais te dire, on va prier dans un instant. On va prier pour celles et ceux qui le souhaitent. Et j'appelle ce soir tous celles et ceux qui ont taché leurs vêtements par le péché à avoir le courage de ne plus se taire, de ne pas enfouir, de ne pas cacher, mais de mettre à la lumière. Tant que je me suis tue, je gémissais. Mais une fois que David a ouvert la bouche, Dieu l'a libéré. Amen. Il est redevenu heureux et il a fini sa vie comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Puisse ce soir être le point de départ, la rencontre première avec Jésus pour certains, puisse ce soir être aussi un point de nouveau départ pour d'autres. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.